En février 2000, Julie Hogg, une jeune maman de 22 ans, a disparu depuis plus de deux mois à Billingham, dans le nord-est de l'Angleterre. Quand sa mère débarque chez elle, alertée par une forte odeur qui vient de la salle de bain, elle fait une terrible découverte.
Ça m'a traumatisée pendant très très longtemps. Encore aujourd'hui, j'ai des flashbacks et je fais des cauchemars du moment où je l'ai retrouvée.
Julie n'a jamais disparu. Son corps se trouve en fait sous sa baignoire depuis 80 jours. Les enquêteurs sont persuadés que le tueur est Billy Dunlop, un homme de 26 ans. Mais après deux procès, il est acquitté du meurtre de Julie, à la surprise générale.
On me pointe du doigt depuis 20 mois. Et ils ont enfin compris qu'ils regardaient dans la mauvaise direction.
Malgré ces déclarations, Billy Dunlop laisse les policiers sans voix en reconnaissant avoir commis ce meurtre 10 ans plus tard.
Vous avez dit la vérité lors des deux procès ?
Non.
Vous avez tué Julie Hogg ?
Oui.
Mais une loi britannique qui date de 800 ans empêche les autorités de faire quoi que ce soit.
Il se retrouvait face à un homme qui reconnaissait avoir commis un meurtre. Mais la justice de ce pays ne pouvait absolument rien faire parce que la loi était mal faite.
17 ans après le meurtre de Julie Hogg, Billy Dunlop est enfin condamné. C'est l'un des pires criminels au monde. En 2006, Billy Dunlop, alors âgé de 43 ans, est enfin reconnu coupable du meurtre de Julie Hogg. La jeune mère de 22 ans a été assassinée en novembre 1989. Son corps est resté caché sous la baignoire de son domicile pendant plus de deux mois. L'affaire Dunlop a marqué l'histoire judiciaire britannique car il sera le premier individu à être acquitté dans une affaire de meurtre avant d'être finalement condamné par la justice. Cela grâce à la modification de la loi de double condamnation vieille de 800 ans et au combat mené par Anne Ming, la mère de Julie Hogg.
Quand une personne est assassinée, il y a toujours des conséquences. Qu'est-ce que le meurtrier en retire ? Il a perdu sa liberté, mais je m'en fiche. Elle a perdu la vie. C'est du gâchis. Ça n'a aucun sens.
Kevin, le fils de Julie, n'a que 3 ans quand sa mère est assassinée. Il ne découvre la vérité sur ce qui s'est vraiment passé qu'une fois adolescent.
J'avais peur de poser des questions, même s'il me disait que j'avais le droit. Il serait honnête avec moi s'il connaissait les réponses. Pas mal de fois, j'ai eu envie de poser la question, mais j'avais peur de faire de la peine à quelqu'un. Maintenant, ce n'est plus le cas.
Anne découvre le corps de sa fille presque 3 mois après que celle-ci semble avoir disparu à son domicile, à Billingham, près de Stockton-on-Tees, dans le comté de Durham. La vérité sur ce qui est arrivé à Julie ne sera révélée qu'en 1999, 10 ans après sa mort.
C'était notre fille, la mère de Kevin, une sœur. Elle aurait été tata. Elle avait 22 ans et toute la vie devant elle, mais un monstre a brisé sa vie. Dunlop. Elle ne méritait pas de mourir comme ça. Lui, il mérite de passer sa vie en prison, de ne jamais sortir.
L'histoire de ce tueur débute dans le nord-est de l'Angleterre. Billy Dunlop naît à Stockton-on-Tees, dans le comté de Durham, en mars 1963.
Billy Dunlop a grandi dans une fratrie de 4 enfants. Mais ce qui était notable dans son enfance, c'est son père autoritaire qui était violent quand il le jugeait nécessaire.
Il n'hésitait pas à frapper ses enfants pour qu'ils lui obéissent. Dunlop recevait donc assez régulièrement des coups. La violence est quelque chose de normal pour lui. Ça fait partie de son enfance. Et il apprend aussi que la violence a de la valeur. C'est une façon d'obtenir quelque chose, d'exercer le pouvoir et l'autorité.
Durant sa jeunesse, Dunlop a des démêlés avec la justice.
À l'âge de 18 ans, il s'est retrouvé devant un juge pour avoir frappé un homme au visage. C'était une agression très violente, mais ça n'était pas vraiment surprenant. Cet homme croit que la violence est utile, et il a déjà sûrement été violent dans le passé, même s'il n'avait pas encore de casier judiciaire.
Billy Dunlop était prêt à exploser, prêt à se déchaîner. C'était une vraie bombe à retardement. Il suffisait que les fils se touchent pour que ça se produise. Ça fait de lui un individu extrêmement dangereux.
Dunlop a l'habitude des confrontations sur les terrains, mais également en dehors.
L'équipe de rugby de Dunlop était surnommée la bande des Barjots à cause de ce qu'ils faisaient quand ils sortaient tous ensemble. Ils étaient bagarreurs et violents.
Ce sont des amis de Dunlop qui lui présentent Julie Hogg, 22 ans. La jeune femme est livreuse de pizza et célibataire depuis peu.
Billy Dunlop a rencontré Julie par un ami qui avait eu une relation avec elle. Pour lui, Julie était comme les autres femmes, un bout de viande uniquement là pour satisfaire le moindre de ses désirs et de ses besoins. Il ne considérait pas les femmes comme des égales. Il les voyait comme des jouets. Elles devaient faire tout ce qu'il lui demandait.
Julie s'est mariée jeune, mais elle revient souvent rendre visite à ses parents et passe du temps avec sa mère.
Même si elle était mariée, ça ne l'empêchait pas de passer nous voir à la maison tous les jours, surtout après la naissance de Kevin. Ça me faisait plaisir. Elle venait le matin, après avoir déposé Andrew à son travail. Kevin était encore un bébé à cette époque.
À la fin de 1989, Julie vit sur Grange Avenue avec son fils de 3 ans, Kevin. Elle vient de se séparer de son mari, mais le jour où elle est censée signer les papiers du divorce, tout ne se passe pas comme prévu.
Elle avait rendez-vous au tribunal le 16 novembre à 10h. Elle m'a demandé de la réveiller tôt ce matin-là. J'ai appelé chez elle à 7h30, mais elle n'a pas répondu. Je gardais Kevin, alors j'ai pensé qu'elle dormait encore. J'ai rappelé deux fois, et puis j'ai décidé d'aller chez elle.
Julie a livré des pizzas jusque tard dans la nuit. Quand Anne arrive accompagnée de Kevin, le fils de la jeune femme, Julie n'ouvre pas la porte. Cela ne lui ressemble pas.
J'ai senti qu'il y avait un problème. Elle aurait dû être là, c'était bizarre. J'attendais devant, avec son fils, et il réclamait sa maman. Je me suis rendue sur le lieu de travail de mon fils et je lui ai demandé de venir avec moi. Il a réussi à rentrer par la porte de derrière. Il y avait une petite vitre. Il l'a cassée pour pouvoir entrer. Ensuite, il a ouvert les rideaux de devant. C'était le mois de novembre. Il faisait froid, mais il a ouvert la fenêtre. Il m'a dit qu'il y avait un problème parce que les clés n'étaient nulle part.
Le lit de Julie n'est pas défait, ce qui signifie qu'elle n'a pas dormi chez elle. Anne commence à être très inquiète et elle décide de rendre visite au patron de sa fille.
Avec mon mari, on est allé à la pizzeria et un des employés a affirmé qu'il l'avait raccompagnée chez elle à 1h30. Il avait attendu qu'elle rentre à l'intérieur avant de repartir.
Anne et Charlie, son mari, se rendent au commissariat pour signaler la disparition de leur fille. Julie est introuvable. La jeune femme de 22 ans semble avoir disparu sans laisser de traces. Le 20 novembre, 4 jours après la disparition de Julie Hogg, les enquêteurs décident de passer le domicile de la jeune femme au peigne fin.
On est entré dans la maison et il y avait des traces de doigts partout. À un moment, j'étais dans la salle de bain avec le chef de l'équipe scientifique et une policière. Sur le rebord de la fenêtre, il y avait sa trousse de maquillage. Elle n'allait nulle part sans son maquillage. J'avais l'impression d'être une mère névrosée à ce moment-là. C'était sûrement pas le cas, mais j'avais vraiment l'impression d'être folle. Je n'ai rien remarqué qui avait disparu. Rien du tout. Toutes ses affaires, même ses chaussures, étaient encore là.
Je me souviens qu'au début, c'était simplement une disparition mystérieuse. La police pensait qu'elle était partie à Londres pour voir des amis. Et au fur et à mesure, le mystère s'est épaissi et personne ne savait vraiment ce qui s'était passé.
Les jours passent, puis les semaines. Julie est absente pour l'anniversaire d'Anne. Et elle n'est pas là non plus pour fêter Noël avec Kevin, son fils de 3 ans.
En janvier, j'ai commencé à être en colère après elle parfois. Si elle était partie, comme la police le pensait, pourquoi elle avait fait ça? On ne s'était pas disputé, on n'avait rien fait pour l'énerver. Le petit réclamait sa maman. Pourquoi elle avait fait ça?
Le 5 février 1990, 80 jours après la disparition de Julie, son ex-mari Andrew s'apprête à revenir vivre dans la maison que le couple occupait sur Grange Avenue à Bellingham. Il sent une odeur horrible dans la salle de bain et appelle Anne Ming, la mère de Julie, pour qu'elle vienne l'aider.
Quand je suis arrivée, il m'a ouvert et je lui ai demandé si l'odeur était toujours là. Il m'a répondu que ça empirait. Alors, je suis allée voir ça par moi-même. À l'époque, j'étais infirmière de bloc opératoire depuis plus de 20 ans. Au fond de moi, je priais pour que ça ne soit pas Julie, parce que je connaissais parfaitement cette odeur. J'ai monté les escaliers. Je bouillonnais à l'intérieur. J'avais l'impression de vivre la scène au ralenti. J'avais une sensation vraiment très étrange. Je me suis penchée pour sentir le mur, et au niveau du tablier de la baignoire, l'odeur était plus forte. Je me suis accroupie et j'ai ouvert la trappe. Elle était sous la baignoire. J'étais complètement hystérique. J'ai couru dans les escaliers et j'ai hurlé à Andrew. Elle est sous la baignoire, elle est sous la baignoire. Il a cru que j'étais folle. Il a dit qu'il allait chercher un tournevis pour enlever le tablier de la baignoire. Moi, je criais, je priais. Il est revenu avec un tournevis et il a enlevé le tablier. Je l'ai entendu dire, c'est pas vrai. Il était en haut des escaliers, je le revois encore. Et il m'a demandé en criant ce qu'il devait faire. Je lui ai dit d'appeler les secours. Je suis sortie de la maison et quelques minutes après, la rue était pleine de voitures de police et tous les voisins étaient dehors.
Pendant près de 3 mois, le corps sans vie de Julie Hogg se trouvait sous sa propre baignoire, dans une couverture. Anne est totalement bouleversée et elle se dirige vers les policiers qui avaient fouillé la maison de fond en comble 4 jours seulement après la disparition de sa fille.
Dans une des voitures de police, il y avait l'inspecteur grâce à qui on avait gardé espoir. Il nous avait dit qu'elle était peut-être seulement partie et on devait croire qu'elle était encore en vie. Je voulais qu'il vienne avec moi dans la maison pour lui montrer qu'il avait tort. Mais je n'ai pas pu le faire, parce qu'on n'avait plus le droit d'entrer à l'intérieur. Ensuite, je suis montée dans une voiture de police avec mon petit-fils et une policière nous a reconduits à la maison. À partir de là, j'ai vécu un cauchemar. Je ne souhaite ça à personne.
Après les ratés de la police de Cleveland pour retrouver la victime, les autorités sont déterminées à ne plus commettre d'erreur. L'inspecteur John Matthews fait partie de l'équipe chargée d'enquêter sur la mort suspecte de Julie Hogg.
À la suite de la découverte du corps, une équipe d'enquêteurs exceptionnelle a été mise sur pied pour prendre toutes les mesures nécessaires et bien entendu, découvrir ce qu'il s'était passé. Les policiers ont dû faire face à plusieurs problèmes. Le premier, c'était la décomposition du corps. C'était donc difficile d'établir la cause de la mort. La victime avait sans doute été étranglée et était morte asphyxiée. Mais l'autopsie a révélé qu'elle présentait aussi une sévère déchirure vaginale. Tout portait à croire que c'était un meurtre. Elle avait dû être étranglée par le meurtrier à qui elle avait sûrement ouvert, car il n'y avait aucun signe d'effraction à son domicile.
Quand l'enquête débute, Anne doit réfléchir à ce qu'elle va dire au fils de Julie, qui a 3 ans, et qui était sur les lieux lors de la découverte du corps de sa mère.
Il savait qu'il s'était passé quelque chose dans la salle de bain, parce qu'il était en bas quand j'ai trouvé le corps. On lui a dit que sa maman avait glissé dans la baignoire et qu'elle était morte, qu'elle était au paradis. Il ne semblait pas avoir conscience qu'elle était absente depuis des mois.
Quand j'y repense aujourd'hui, un enfant de 3 ans devait être complètement terrifié par la situation et par ce qui allait se passer par la suite. Quand ils ont sorti le corps de la maison, où est-ce que j'étais? Parce que c'est ce jour-là qu'on a retrouvé son corps. J'étais où? J'essaie de me rappeler. Et en fait, mon cerveau m'en empêche. Peut-être parce que c'est un tel traumatisme qu'il bloque ce souvenir. Je n'en sais rien.
Tandis que la famille fait son deuil, les enquêteurs se rendent dans le club de rugby de la ville. Julie connaissait plusieurs joueurs de l'équipe.
Parmi eux, il y avait de nombreux suspects. Elle était appréciée. Il y avait Billy Dunlop et d'autres membres du club de rugby de Billingham, qu'elle connaissait aussi. La bande des Barjots, comme on les surnommait.
Après avoir interrogé et éliminé la plupart des joueurs, les soupçons se portent sur un seul homme.
À partir des éléments dont on disposait et de la personnalité de Billy Dunlop, on savait dès le début que ce serait notre suspect numéro un, sans aucun doute.
L'homme de 26 ans est convoqué pour être interrogé.
C'est peut-être l'interrogatoire le plus étrange de ma carrière. Billy Dunlop était extrêmement futé. Il était vif et il avait toujours un coup d'avance. Dès qu'on a lancé l'enregistrement, il s'est concentré. Et au moment où l'interrogatoire s'est arrêté, il était super sympa. Il parlait de sport, de rugby, comme si on se connaissait depuis des lustres. Il ne me voyait plus comme un policier qui enquêtait sur un meurtre.
Au moment où Dunlop est interrogé par la police, les enquêteurs qui perquisitionnent son domicile font une découverte.
Des agents s'étaient rendus chez lui et ils ont découvert des clés sous le plancher. C'était très intéressant. On a très vite su qu'elles appartenaient à Julie Hogg. C'était les clés de chez elle, là où elle est morte.
Deux empreintes sur le porte-clés correspondent à celles de Dunlop, ce qui prouve qu'il a utilisé ses clés à un moment. Mais s'il continue à tout nier en bloc, le 16 février 1990, Billy Dunlop est inculpé pour le meurtre de Julie Hogg.
Quand ils m'ont parlé des empreintes sur le porte-clés, j'ai pensé que c'était bon. Parfois, des coupables sont condamnés grâce à des preuves moins accablantes. On avait deux empreintes. Quand la police nous a annoncé la nouvelle, on était confiants.
Les preuves matérielles au domicile de Julie sont examinées de près. Et les éléments contre Billy Dunlop s'accumulent.
Il y avait du sperme sur la couverture dans laquelle le corps de Julie avait été placé. Et Dunlop pouvait être à l'origine de ces sécrétions. Il y avait également des fibres vertes sur la couverture, exactement comme celles des tenues de l'équipe de rugby.
Le procès de Dunlop débute le 7 mai 1991 au tribunal de Newcastle. Comme Anne Ming est celle qui a découvert le corps de sa fille, elle doit témoigner.
Quand je suis arrivée à la barre, c'était horrible. L'avocat de la défense m'a demandé « Quand vous êtes entrée dans la salle de bain et que vous avez touché le tablier de la baignoire, c'était de la main gauche ou de la main droite ?» C'était affreux. Le juge lui a ordonné d'arrêter de me poser ce genre de questions. J'avais des flashbacks qui me revenaient. Je pouvais la sentir, je la revoyais. C'était horrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'était affreux d'être face à lui. Il savait très bien ce qu'il avait fait.
Les avocats de Dunlop tentent de faire passer Julie pour une fille facile, qui aurait multiplié les partenaires sexuels.
Pendant tout le procès, Julie a été totalement roulée dans la boue. Ils l'ont faite passer pour une nymphomane, pour une femme qui couchait avec de nombreux hommes. Pour les avocats de la défense, elle n'aurait jamais dû se comporter de la sorte. Ce n'était pas une femme respectable.
Ma fille avait été tuée et c'était lui le meurtrier. Il salissait sa réputation. Il racontait qu'ils avaient une relation. Mais je n'étais pas au courant. On devait le croire sur parole. Elle n'était plus là pour se défendre. Donc il pouvait dire absolument ce qu'il voulait.
La défense questionne même la validité de la principale preuve matérielle de l'accusation. Le porte-clés avec les empreintes de Dunlop qui a été retrouvé chez l'accusé, caché sous le plancher.
L'expert scientifique de la défense a déclaré que deux des empreintes sur le porte-clés étaient celles de Billy Dunlop, mais que la troisième ne pouvait pas lui être attribuée, parce qu'elle n'avait pas été identifiée à ce moment-là. Et d'après lui, c'était l'empreinte du meurtrier. Ça a dû faire réfléchir les jurés que cet expert dise que quelqu'un d'autre avait tué Julie, parce qu'une troisième empreinte était présente sur le porte-clés et qu'elle était inconnue.
La défense réussit à semer le doute concernant cette preuve. Le 23 mai, après 14 heures de délibération, les jurés ne parviennent pas à trancher. S'ils n'arrivent pas à se décider, un nouveau procès doit se tenir. Dunlop est renvoyé en détention provisoire.
Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. Il n'y avait pas de justice pour Julie, pas de condamnation. J'étais en état de choc. J'étais tellement en colère dans le tribunal, je ne pouvais pas le croire.
Sachant que leur principale preuve matérielle a été scrutée à la loupe par la défense durant le procès, les policiers de Cleveland décident de faire appel à un expert scientifique, Roger Shearn.
On a d'abord imprimé un cliché à l'échelle 1 sur 1. Ensuite, on en a imprimé un autre avec un zoom x5. On disposait du matériel pour pouvoir faire ça, alors on en a profité. Grâce à cela, on a pu affirmer qu'il n'y avait que les empreintes de Dunlop sur le porte-clés. Ça réduisait en miettes l'argument de la défense qu'un autre individu était impliqué.
C'était une super nouvelle. On a pensé que c'était réglé. C'était ce qui avait empêché les jurés de prendre une décision.
En octobre 1991, Dunlop est de retour sur le banc des accusés, au tribunal de Newcastle. Cette fois, la défense ne remet pas en question les empreintes. Mais il reste un problème de taille.
Le souci, c'est qu'on n'avait pas établi de façon irréfutable ce qui avait causé la mort. On ne pouvait donc pas dire de quoi elle était morte. Et encore une fois, je crois que ça a semé le doute parmi les jurés. Comment ils pouvaient condamner Dunlop alors qu'ils ne savaient pas comment la victime était morte?
C'est un coup de massue pour l'accusation. Le 16 octobre, le juge ordonne au juré de prendre une décision et de se prononcer définitivement.
Une nouvelle fois, ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Il y avait un doute, la décision n'était pas unanime. Comme c'était le deuxième procès, c'était fini. Il a été acquitté.
Malgré tous les éléments contre lui, Billy Dunlop ressort libre du tribunal.
Ça a été très dur à accepter. Ça faisait mal de savoir qu'un criminel avait été acquitté alors qu'on savait pertinemment qu'il était coupable. Ça ne faisait aucun doute. Quand il s'agit d'un meurtre, c'est encore plus dur à avaler. Mais franchement, le pire, c'est pour la famille de la victime.
On était abattus parce que les preuves étaient sous leurs yeux. C'était à peine croyable. Honnêtement, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Ce n'était pas possible.
Pour ne rien arranger, quelques jours après son acquittement, Billy Dunlop fait une apparition à la télévision.
J'aimerais que l'affaire soit ouverte et qu'il regarde dans la bonne direction.
Au mois d'octobre 1991, Billy Dunlop est déclaré non coupable du meurtre de Julie Hogg, une jeune mère de 22 ans. De nombreux éléments le désignent comme le meurtrier. Mais Dunlop est libre et il ne compte pas rester dans l'ombre.
On me pointe du doigt depuis 20 mois. Et ils ont enfin compris qu'ils regardaient dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, j'aimerais que l'affaire soit rouverte et qu'ils regardent dans la bonne direction.
Il a accordé plusieurs interviews à des médias locaux. Il était bravache. Il disait que la police s'était trompée depuis le début, qu'il nous avait prévenus, qu'on aurait dû poursuivre l'enquête et trouver le véritable meurtrier. En gros, c'était ce qu'il disait. Il nous provoquait. Et on devait l'accepter. Mais Anne a dû énormément souffrir en entendant ça.
On n'a jamais douté une seule seconde. La police avait arrêté le véritable coupable. On savait que c'était lui qui avait tué notre fille. On le savait.
Mais Billy Dunlop ne peut pas lutter contre sa nature violente. 6 ans après son acquittement, l'homme de 34 ans est placé en garde à vue.
Il a découvert que son ex-petite amie voyait quelqu'un d'autre. Et il a refusé de l'accepter. Personne n'avait le droit de se mettre avec elle. Alors il a pris une batte de baseball, il est entré par effraction dans la maison et il les a tous les deux passés à tabac. C'était une agression injustifiée, préméditée, violente et effroyable. Dunlop était persuadé que les femmes étaient à ses pieds, qu'elles devaient rester avec lui et ne pas le quitter pour un autre homme.
Il est profondément misogyne. Il croit que les femmes lui appartiennent. Comment une ex-petite amie pourrait oser le quitter et se mettre avec un autre? Il voulait lui donner une bonne leçon. C'était ça le message.
Anne apprend rapidement la nouvelle de l'agression.
Oui, le lendemain, j'étais au courant. La police est venue nous prévenir qu'il avait été arrêté. Il était inculpé pour tentative de meurtre sur deux personnes. On était soulagés, car on ne voulait plus qu'il soit en liberté, qu'il puisse tuer à nouveau et qu'une autre famille vive un calvaire.
En mai 1998, Dunlop plaide coupable pour le chef d'accusation de violence physique. Il est condamné à 7 ans de prison. Alors qu'il a toujours clamé son innocence dans l'affaire Julie Hogg, qui remonte à presque 10 ans, un beau jour, en prison, il reconnaît son rôle dans la mort de la jeune femme. Il parle ouvertement du fait qu'il a tué Julie Hogg à des surveillants de la prison et dans des lettres envoyées à des amis. En octobre 1990, Dunlop est convoqué à un interrogatoire par les enquêteurs. Cette fois, il décide de raconter exactement ce qu'il s'est passé la nuit du 16 novembre 1989.
Vous avez dit la vérité lors des deux procès ?
Non.
Vous avez tué Julie Hogg ?
Oui.
Contre toute attente, tout juste 10 ans après les faits, Billy Dunlop reconnaît le meurtre de Julie Hogg. Il déclare aux policiers qu'il s'était battu à son club de rugby avant d'aller voir Julie, parce qu'il avait besoin qu'elle le réconforte.
Il y avait de la lumière chez elle, chez Julie. Je la connaissais depuis quelques années. Elle m'a ouvert et je suis entré. On a bu un thé. J'avais juste besoin de parler, de me changer les idées. Et puis elle a commencé à me charrier. Elle se moquait de moi parce que j'avais un œil au beurre noir. J'avais eu des points de suture. Et puis il me manquait une dent. Alors j'ai pété un plomb. Je me suis levé et je l'ai étranglé.
Vous pouvez me décrire comment vous l'avez étranglé ? Avec vos mains ou...
Oui, avec mes mains.
On n'était au courant de rien avant que la police vienne nous voir et qu'ils nous disent qu'ils avaient des informations. Ils avaient enregistré l'interrogatoire où il avouait qu'il avait étranglé et caché le corps de Julie.
Je voulais pas me faire pincer pour ça. J'ai eu des problèmes avec les flics, et je m'y connais un peu en police scientifique, ce genre de truc. Alors j'ai mis une couverture par terre et je l'ai déshabillé.
Dunlop a beau tout avouer, il n'explique pas la déchirure vaginale de Julie Hogg révélée par l'autopsie. Il semble vouloir écarter le mobile sexuel qui pourrait expliquer son meurtre.
On n'avait que la version de Lee Dunlop. Pendant l'interrogatoire, il a dit qu'il s'y connaissait un peu en police scientifique. Il a déshabillé Julie et il l'a mise dans une couverture pour se débarrasser du corps. Il avait d'abord voulu le mettre dans le grenier, je crois. Mais ça aurait été compliqué pour lui, parce qu'il est assez petit. Il n'aurait pas pu. Alors il a décidé de la mettre sous la baignoire.
Je suis descendu, j'ai pris un tournevis et j'ai retiré le tablier de la baignoire. J'ai essayé de la mettre derrière en m'appuyant contre le lavabo et en la poussant avec mes pieds. Et puis je suis redescendu. J'ai pris ses vêtements et je les ai mis dans un sac. Je m'étais aussi déshabillé pour pas laisser les fibres de mes vêtements sur la couverture.
Cela peut sembler incroyable. Mais malgré ses confessions, Dunlop ne peut être inculpé du meurtre de Julie Hogg car il a déjà été acquitté par un tribunal.
Il ne pouvait pas être poursuivi pour meurtre. Par contre, on pouvait le poursuivre pour parjure.
Le procès pour parjure de Dunlop se déroule en avril 2000. Sachant que les médias vont parler de l'affaire, la famille estime que le moment est venu de dire à Kevin, le fils de Julie, la vérité sur la mort de sa mère.
J'étais paralysé. J'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté autour de moi. Quand j'étais enfant, j'ai été protégé du nom Dunlop autant que possible. Et je ne m'étais pas rendu compte de ce qui s'était vraiment passé. Mais au final, c'est un nom qui continuera sûrement à me hanter toute ma vie.
Le 14 avril 2000, Billy Dunlop plaide coupable pour parjure. Il reconnaît qu'il a menti sous serment lors des précédents procès. Anne Ming se trouve au tribunal et elle assiste à cette audience.
Il a dit qu'il avouait tout, parce qu'il se sentait mal pour la famille de Julie, surtout pour son fils. Le procureur ne l'a pas cru une seconde. Pour lui, Dunlop avouait parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas être à nouveau jugé pour meurtre. Il encourait une peine beaucoup moins lourde pour parjure. Il comptait se jouer du système. Ses remords, c'était du flan.
Même s'il admet le meurtre devant le tribunal, Dunlop peut seulement être condamné pour l'accusation de parjure, soit une peine de 6 ans de prison.
Je me souviens d'une photo de lui prise ce jour-là au tribunal. Ce sourire sur son visage. Il riait au nez de la justice.
Avant que Dunlop ne quitte le tribunal, Han Ming confronte l'homme qui a tué sa fille presque 11 ans auparavant.
Je me suis levée et j'ai couru vers lui. Il était au fond du tribunal, les menottes au poignet, avec un agent. J'étais à ça de lui. Je lui ai dit, 6 ans, tu vas pourrir en enfer, tu verras. Tu n'as pas eu un remords quand on l'a cherché pendant 3 mois. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Je voulais qu'il entende ce que j'avais sur le cœur. Quand je suis sortie du tribunal, j'ai dit à mon mari que 6 ans, c'était pas juste. Tout ça à cause d'une loi qui datait de 800 ans.
La loi sur la double condamnation est une ancienne loi qui a toujours été vue comme une des pierres angulaires du système judiciaire britannique. D'après cette loi, si un individu est acquitté pour un crime, il ne peut pas être poursuivi à nouveau pour ce même crime. À l'époque, je me suis dit que c'était n'importe quoi. Cette loi ne devrait plus exister. Ça fonctionne bien dans l'autre sens. Si une personne est condamnée pour un crime, mais que de nouveaux éléments sont découverts, elle peut faire appel et être innocentée. Pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens? On avait un individu qui reconnaissait avoir commis un meurtre, mais la justice de ce pays ne pouvait rien faire à cause d'une loi absurde.
Personne n'avait encore jamais avoué un meurtre devant un tribunal après avoir été acquitté. Il est entré dans l'histoire judiciaire du pays. En sortant du tribunal, j'ai décidé de m'adresser au ministre. Cette loi devait être examinée.
Han Ming est déterminé à retourner en justice pour sa fille. Mais c'est loin d'être gagné. Pour s'assurer que Billy Dunlop soit condamné à la peine qu'il mérite, elle doit faire annuler la loi de double condamnation en vigueur depuis plus de 800 ans. Elle décide de s'adresser directement au gouvernement et au ministre de l'Intérieur.
J'ai écrit un courrier à Jack Straw, le ministre de l'Intérieur, et j'ai obtenu un rendez-vous rapidement. Je l'ai rencontré dans son bureau, au ministère. J'ai apporté une photo de Dunlop et une photo de Julie. Je lui ai dit, « Ça, c'est notre fille, et ça, c'est l'homme qui l'a tuée. La condamnation pour parjure, ce n'est pas assez. On fait quoi ?» C'est ce que j'ai dit.
Anne reçoit le soutien de la police locale et de la presse.
Comment on peut vivre avec un tel poids sur les épaules? Pour moi, c'est un mystère. On ne peut pas imaginer une seule seconde ce qu'ils ont vécu, elle et sa famille. Elle était déterminée à rendre justice à sa fille et elle a commencé à se battre bec et ongles. La police l'a soutenue et a tout fait pour que justice soit rendue à Julie.
Le Northern Echo est un journal qui a toujours milité pour des causes justes. Et j'ai vu cette affaire comme une occasion de changer une loi qui était absurde, totalement absurde. Il fallait qu'on la change. On se retrouvait face à un homme profondément mauvais qui avait pris la vie d'une jeune femme dans des conditions absolument effroyables. Et il n'avait pas été condamné pour ses actes. Il riait au nez de la justice. On savait qu'on ne changerait pas la loi du jour au lendemain. C'était un travail de longue haleine. Mais on s'est battu pendant des années. On l'a fait parce que Anne n'a jamais lâché. Et on se devait de la soutenir.
Anne obtient un rendez-vous avec la commission des lois. Mais au moment où l'issue semble proche, tout manque de tomber à l'eau.
On attendait une date de rendez-vous. Et Dunlop a obtenu le droit de faire appel pour sa peine de 6 ans. Il a été autorisé à faire appel concernant sa peine pour parjure alors qu'il avait avoué un meurtre.
En novembre 2000, Anne présente ses arguments pour que l'appel de Dunlop soit rejeté.
Mon discours a convaincu les 3 juges de la cour d'appel et ils ont pris la décision de rejeter son appel. Je crois que c'est la première fois qu'on a pensé que les choses allaient dans notre sens. C'était assez bouleversant, en fait, parce que je me tenais à l'endroit où il avait écouté le verdict de son procès. Je me suis dit que j'allais continuer à me battre contre cette loi de double condamnation. Il le fallait.
Soutenu par Charlie, son mari, le combat d'Anne prend de l'ampleur. Au mois de mars 2001, la commission des lois estime qu'il devrait y avoir des exceptions dans la loi de double condamnation. L'année suivante, les membres du Parlement signent un décret historique qui annule cette loi archaïque. En 2003, Anne s'apprête à faire un discours à la Chambre des Lords.
Lord Goldsmith, le procureur général, m'a demandé si tout irait bien. J'ai répondu que oui. Il m'a présenté, je me suis levée et j'ai parlé de la loi de double condamnation. J'espérais qu'il m'entendrait et que ça puisse s'appliquer rétrospectivement. C'était ma seule chance. Je n'en aurais pas d'autre après ça. Je n'ai pas la langue dans ma poche et je voulais rendre justice à ma fille et aux autres familles qui vivraient le même calvaire.
Après ce discours émouvant, la Chambre ratifie une nouvelle loi. Le combat d'Anne est couronné de succès.
J'ai reçu un coup de téléphone du ministre. Ça devait être 2 semaines après mon discours à la Chambre des Lords. Et il m'a dit que la loi allait s'appliquer rétrospectivement. C'était réglé. J'étais très émue quand il m'a appris la nouvelle.
La nouvelle loi entre en vigueur en 2005. Dunlop peut désormais être légalement inculpé du meurtre de Julie. Mais uniquement si de nouveaux éléments apparaissent contre lui dans le dossier.
Il faut que ce soit des éléments qui n'ont jamais été présentés lors d'un précédent procès. Et ça doit être irréfutable. De toute évidence, si un individu qui a été acquitté pour meurtre se vantait d'avoir assassiné quelqu'un uniquement parce qu'il savait qu'il ne pourrait plus être poursuivi, c'était assez irréfutable.
Avant qu'un nouveau procès puisse se tenir, l'acquittement de Dunlop d'octobre 1991 doit être annulé. En mai 2006, Anne est présente dans la cour d'appel.
Ils se sont levés, ils ont refermé la porte derrière eux et 10 secondes après, ils sont revenus et ils ont annulé son acquittement. On n'y croyait pas. Je les ai remerciés. Ils m'ont dit que c'était inutile, que c'était à eux de me remercier pour ce que j'avais fait. Je suis restée sans voix.
Billy Dunlop peut enfin être inculpé pour le meurtre de Julie Hogg une deuxième fois. Le 11 septembre 2006, le procès de celui qui a désormais 43 ans débute à la cour d'Old Bailey, à Londres. C'est un événement inédit.
Dunlop est arrivé. Je crois qu'il était habillé en noir. Il avait une queue de cheval. Il s'est assis. Madame Ming ne l'a pas quitté des yeux un seul instant. Le procès a débuté et Billy Dunlop a plaidé coupable de meurtre. Il n'a montré absolument aucune émotion quand il se tenait sur le banc des accusés. Il avait échappé à la justice pendant de nombreuses années et la loi avait fini par le rattraper.
Pratiquement 17 ans se sont écoulés depuis le jour où Anne Ming a découvert le corps sans vie de sa fille. Aujourd'hui, Billy Dunlop est enfin déclaré coupable de ce crime.
Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti au bout de 17 ans quand j'ai enfin entendu le mot « coupable ». Il avait fallu attendre 17 ans. Impossible de décrire ce que j'ai ressenti. Et il a été condamné à la perpétuité avec l'obligation de rester au minimum 17 ans derrière les barreaux avant de pouvoir faire une demande de liberté conditionnelle. J'étais heureuse que la justice ait enfin vu qui était vraiment Dunlop. Cet homme ne devrait jamais être remis en liberté. Jamais. Et tant que je respirerai, je ferai tout mon possible pour qu'il reste en prison pour le meurtre de notre fille. Pardon. Vous voyez, 30 ans ont passé, mais c'est toujours la même émotion. Il doit rester derrière les barreaux.
Cette affaire historique a fait le tour du monde.
À un moment, il devait y avoir 3 ou 4 équipes de télévision dans la rue, devant Old Bailey. Il a commencé à pleuvoir et tout le monde était trempé. Mais on voulait tous connaître le verdict. Et ce soir-là, les journaux télévisés ont ouvert là-dessus. Ça a eu un écho partout dans le monde.
Il aura fallu 17 ans pour enfin entendre un juge condamner Dunlop à 17 ans de prison pour le meurtre de notre fille.
Je me souviens que le journaliste sur place a appelé pour dire qu'il avait été condamné. Quel soulagement! Il y a eu des cris de joie à la rédaction parce qu'on suivait cette affaire depuis des années. On a eu le sentiment que la justice avait été rendue. Et on a décidé de mettre cette affaire à la une le lendemain. Je rêvais depuis un bail de titrer « Billy Dunlop, meurtrier ». Il ne pouvait plus rire au nez de la justice maintenant. Je pense encore souvent à cette une.
Depuis la modification de la loi de double condamnation en 2003, de nombreuses affaires ont été rejugées en Grande-Bretagne. Tout ça grâce à la détermination d'Anne Ming.
Ma grand-mère est une des personnes les plus importantes dans ma vie. À certains moments, je n'étais pas sur la bonne voie. Mais maintenant, je vais de l'avant et c'est un exemple pour moi. Elle vient dîner à la maison toutes les semaines. On discute beaucoup. C'est ma grand-mère, mais c'est aussi une amie. Elle est entrée dans l'histoire judiciaire de ce pays en changeant la loi. Ma grand-mère. Elle a même été décorée. Mais c'est ma grand-mère. Personne ne pourra me l'enlever.
Anne Ming est sans aucun doute une des personnes les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées. Et j'en ai connu du monde, en près de 40 ans de carrière comme journaliste. Mais je me souviendrai toujours d'elle comme l'exemple de quelqu'un qui a refusé de baisser les bras, qui était vraiment déterminée et qui s'est battue inlassablement pour sa famille. Et je pense sincèrement qu'elle a rendu un grand service à tout le monde. Alors qu'à la base, c'était une mère de famille du nord-est de l'Angleterre, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais elle a réussi à changer les choses. Elle peut être fière de ce qu'elle a accompli.
Billy Dunlop est toujours derrière les barreaux. Il aura fallu 17 ans à la justice avant qu'elle ne condamne ce meurtrier sans scrupule pour le mal qu'il a fait à la famille de Julie.
Je ne ressens rien pour Dunlop. Pas de haine, pas de colère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je me dis que si je pense à lui, s'il est dans ma tête, ça veut dire qu'il a gagné. Je ne le considère pas comme un individu, comme une personne. Ce n'est pas une personne. Il n'est pas humain. C'est un animal.
Je le hais, avec un grand H. Certains diront qu'on doit pardonner le meurtrier d'un proche. Comment pourrais-je lui pardonner? Je le hais au plus profondément de moi. Il n'a rien fait pendant 3 mois, quand on recherchait ma fille. Je le hais tellement. J'espère qu'il n'a que ce qu'il mérite. C'est tout.
Dunlop est un individu violent qui a tué Julie Hogg de sang-froid. Mais grâce au combat acharné d'Anne Ming, l'assassin de sa fille est désormais en prison et une loi archaïque a été modifiée pour de bon. On ne connaîtra sans doute jamais le véritable mobile de ce drame. Mais quelle excuse peut-on trouver à un individu qui laisse un enfant de 3 ans sans sa mère? Billy Dunlop est l'un des pires criminels au monde.